Mesdames et messieurs les jurés, bonsoir. Mesdames et messieurs, cela ne vous fait sûrement pas le même effet étrange qu'à moi que d'entendre ça. Mesdames et messieurs les jurés. À une époque, ça aurait été seulement messieurs les jurés et ça aurait paru parfaitement normal. Pire, dire que ce devrait être mesdames et messieurs les jurés, au lieu de messieurs les jurés seulement, m'aurait valu de me faire incendier par la critique et me retrouver dans l'impossibilité de continuer dans le concours. Pourtant, aujourd'hui, la situation est complètement différente. Et il semble parfaitement normal de dire mesdames et messieurs au début de n'importe quel discours. D'ailleurs, si je déclarais qu'il faudrait dire seulement messieurs les jurés, je me ferais sûrement attaquer de toutes parts et je pourrais être certain de mon élimination du concours. La raison de ces subtilités de langage qui peuvent faire varier la réaction de l'audience entre l'indifférence totale et l'ahurissement et le choc à l'entendre de telles provocations est ce que l'on appelle aujourd'hui le politiquement correct. Le terme est souvent employé de manière péjorative pour décrire une attitude s'efforçant d'inclure tout le monde et ne choquer personne, de quelque manière que ce soit. Souvent dans un discours dont le message de fond est qu'on ne peut plus rien dire. Apparemment, on ne pourrait plus exprimer d'opinion contraire à la bien-pensance générale sans se faire lapider. Apparemment, même si les dites opinions ne sont que des blagues, on n'a plus le droit. On vit dans une époque où l'on réprime tout ce qui pourrait être un tantinet de choquant pour qui que ce soit, apparemment. Il faut cependant prendre en compte que ce genre de discours vient en général de gens qui tentent de justifier leurs propos racistes, sexistes, homophobes et plein d'autres mots complexes définissant la haine de tout ce qui n'est pas un mâle blanc hétéro cisgenre de la classe moyenne haute, en disant qu'ils sont simplement en train de résister à la dictature du politiquement correct. On leur donne automatiquement tort, car ils sont sacrément bêtes quand même de croire qu'il y a des espèces d'êtres humains supérieurs à d'autres, que l'on pourrait avoir le droit d'aimer qui on veut, sauf s'il est du même sexe ou genre que nous, ou qu'il y a un sexe ou un genre qui est inférieur à l'autre. Ce serait vraiment triste, s'ils avaient raison. Au début du présent discours, j'ai parlé d'une époque où « mesdames les jurés » n'était qu'une stupide fantaisie de petite fille. À cette époque-là, lorsque quelqu'une parlait de droits des femmes, beaucoup se disaient que ce serait vraiment triste qu'elle ait raison. Pareil pour les ethnies non blanches, réduites à l'esclavage, comme c'était stupide et irréfléchi que de suggérer que ça puisse être des êtres humains comme nous à l'époque. Heureusement pour elles et eux, il y en a qui se sont levées et qui ont décrié les injustices perpétrées pour ce qu'elles étaient, qui se sont battues pour leurs droits et qui ont commencé à réussir. Oui, car malgré tout ce que nos amis les rednecks peuvent dire, l'égalité des ethnies et des genres n'est pas encore universellement reconnue. Au Vatican, les femmes n'ont pas le droit de vote. Donc il n'y a pas de dictature du politiquement correct à proprement parler. Dans le monde, il y a encore beaucoup d'inégalités à vaincre avant de pouvoir dire « mâle blanc privilégié » sans que ce soit un pléonasme. Cependant, même si les inégalités existent encore, leur importance continue de diminuer de jour en jour. Aujourd'hui, les gens sont plus libres que jamais de dire ce qu'ils veulent. Alors pourquoi cependant ? Parce que malgré cette liberté d'expression quasi totale, on se fait vite lyncher publiquement si on dit quelque chose qui pourrait choquer, même si ce n'est qu'un peu, et qui que ce soit. De l'humour paillard à l'humour noir, nombreux sont ces dragons que les guerriers de la justice sociale ont tenté de décapiter dans les médias de masse, dont le plus notable est sûrement Twitter. Ah, les lapidations sur les réseaux sociaux, quelle discipline passionnante. Des personnes passent leur temps à chercher le mal parmi les tweets d'autres pour les exposer pour ce que ces derniers sont, les plus horribles et répugnants individus de l'espèce humaine. Sauf que, bien souvent, les attaques ne sont pas méritées et ont des motifs ridicules. Prenons le cas de James Gunn. Le réalisateur, bien que réengagé depuis, s'est vu perdre son emploi dans la division Marvel de chez Disney, à la suite d'un lynchage conséquent qui avait pour cause des tweets à registre ironique sur des sujets tabous car choquants et sensibles, comme le viol. Il n'était nullement mal intentionné dans sa démarche, ne visant à blesser personne avec ses traits d'esprit certes douteux, comme il l'a lui-même dit dans une interview suite à son renvoi. Il a été réengagé après un torrent de protestations de fans en colère, comme quoi ce genre d'attaque virulente et décérébrée a aussi du bon, mais quand même, il ne faudrait pas devoir s'excuser pour avoir essayé de rire, et ça de quelque sujet que ce soit. En effet, je suis de ceux qui pensent que l'on se doit de rire de tout. Et puis si des gens ne sont pas d'accord, bah, qu'ils ne rient pas, mais qu'ils nous laissent. Le rire n'est pas une réaction nocive, surtout pas lorsqu'on la compare à l'apitoiement forcé de beaucoup face à des événements auxquels leurs larmes ne pourraient rien changer. Je vous parle par exemple des incendies qui, il y a quelques semaines encore, dévastaient l'Australie. Je m'étais exprimé de manière aigriarde sur le sujet. Et cela m'a valu un bon nombre de regards fâchés et de remarques fort peu polies de la part de mes camarades de classe. Or, je ne vois pas de quelle autre manière j'aurais pu réagir. C'est vrai, enfin. Bien sûr que je ne rirais pas si en face de moi, il y avait un bébé koala en flammes. Mais en attendant, je n'ai pas plus envie qu'un autre d'arrêter de sourire à cause d'événements dont l'issue n'appartient pas à mes pleurs. Et pareil pour ce bon James Gunn dont je vous parlais tout à l'heure. À moins qu'il ne détienne le remède ultime au viol et refuse de le partager avec le monde, je ne vois pas pourquoi il devrait cesser de s'en moquer. Il ne cautionne pas l'acte de viol. Il rit de l'absurdité du concept, de la même manière que Montesquieu se moquait de l'esclavage. Et les gens qui ne le trouvent pas drôle, tant pis. Mais le genre de tabou à tout va que vous mettez en place en rendant tous les sujets sensibles ne font que contribuer au sentiment d'importance que se donnent les gens qui commettent les atrocités en question, n'ont juste pas de sens, comme dans le cas des bébés koalas en feu. Gunn a dit, je cite, « La meilleure partie du processus de se faire violer, ça doit être la fin, lorsqu'on peut se dire « Ouf, ça fait quand même du bien de ne pas être en train de se faire violer. » Avec le choix du mot « meilleur », il implique que le viol pourrait être quelque chose de positif, au point qu'il en ait des caractéristiques bonnes et des meilleures. Or, c'est une atrocité indéfendable. Le choix des mots adéquats aurait donc été de dire « moins terrible ». On a ici clairement un registre ironique. Par ce genre de blague, il n'encourage pas le viol, bien au contraire. Tout comme Montesquieu ne cautionnait pas l'esclavage, contrairement à l'avis de certains de mes camarades de classe jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ces deux gentilshommes nous montrent l'importance du recul et de la réflexion à la lecture d'écrits qui pourraient, à première vue, être aisément mésinterprétés. Par le présent discours, je n'ai pas essayé de vous dire si le politiquement correct, c'est bien ou mal. Je vous ai simplement montré que c'est un phénomène qui existe, qui a toujours existé, bien qu'on ne l'appelait pas par ce nom il y a 100 ans. C'était juste les normes sociétales en place, ce que l'on pouvait dire, sans se faire sévèrement juger par ses confrères les membres de la société. Elisabeth Badinter a dit qu'il fallait apprendre à y résister, et elle a fort raison. De tout temps, lorsque quelqu'un s'est levé pour essayer de bousculer les normes, d'une manière ou d'une autre, ça a amené à un progrès dans la société. Je pourrais vous sortir les exemples clichés des Gandhi, Rosa Parks et autres Simone Veil, mais vous les connaissez tous sûrement mieux que moi, donc je ne le ferai pas. Elisabeth Badinter a donc dit qu'il fallait apprendre à lire et résister au politiquement correct. Il faut apprendre à lire, mesdames et messieurs, parce que sinon, on ne saura pas où se situe le politiquement correct auquel il faut résister. Aujourd'hui, en l'occurrence, il se situe dans la volonté de ne choquer personne de nulle manière que ce soit. Donc, dans un dernier acte de résistance, avant de laisser la parole à des jeunes gens au discours bien plus fédérateur que moi, je vous dirai « Gloire à notre seul Seigneur Satan » et bonsoir. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est, de Jean-Paul Sartre. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut. Ça semble aller de soi. On ne devrait pas avoir le droit de faire beaucoup de choses qui pourraient nuire à la bienséance générale. Si ce n'était pas le cas, mon précédent discours n'aurait pas de raison d'être. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, car c'est important de penser aux autres aussi, des fois. Et les autres non plus, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils pensent à vous. Et vous devriez avoir le mérite que l'on pense à vous. Vous êtes responsable de ce qui pousse les gens à penser à vous et à ne pas faire ce qu'ils veulent, à savoir vous tuer violemment et envoyer des photos à votre famille. Vous êtes responsable d'être une personne bien, qui suit les règles, qui pense aux autres, pour que les autres en fassent de même à votre égard. Merci beaucoup.